carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, jusqu'au 5 juin 2011 est représenté au Théâtre National de l'Odéon à Paris, 1000 francs de récompense, une pièce peu connue, mais spectaculaire de Victor Hugo, dont je rappelle au passage qu'il a été élu le 7 janvier 1841 à l'Académie française. Il était alors dans sa 39e année. Pour évoquer ce 1000 francs de récompense, mise en scène par Laurent Pelly, et surtout la place du théâtre dans l'œuvre de Victor Hugo, notre invitée est Anne Delbey, actrice, auteur dramatique et grand metteur en scène, entre autres de pièces de Racine, de Claudel, de Rostand, d'Hugo, de Schiller aussi, et certainement metteur en scène de référence pour Racine et Claudel au moins. Anne Delbey, qui a justement commencé sa carrière de metteur en scène par un spectacle intitulé « Victor Hugo, cet inconnu », monté en 1970 à partir de textes de l'écrivain sans doute le plus important de l'histoire de notre littérature. Anne Delbey, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le spectacle proposé à l'Odéon a été en fait créé en 2010 au Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées. Victor Hugo a-t-il, à votre avis, tout à fait raison, a eu tout à fait raison ou tort de refuser que ce 1000 francs de récompense soit joué de son vivant ?
Peut-être je ne suis pas le bon interprète, ou plutôt le bon avocat. Moi, je trouve qu'il a eu raison, parce que je n'aime que l'autre penchant d'Hugo, le grand lyrisme, la grande folie, Hernani, Ruy Blas, Cromwell,
les grands textes,
et que je trouve, quand il traite du social, je préfère le roman. Mais c'est une pièce tout à fait étrange et très, très intéressante.
Oui, un vrai mélo, ça se passe dans les années 1820.
Oui, mais curieusement, je l'ai relu, là, et je trouve que c'est, au jour d'aujourd'hui, d'abord, c'est très intéressant. Et puis,
il y a le veau d'or, hein, c'est l'argent roi.
Oui, c'est l'argent roi. Mais en même temps, c'est comme toujours chez Hugo, c'est plus qu'un mélo. Enfin, oui. Il y a quelque chose derrière qui décolle toujours, c'est pas du Zola.
Et il y a un personnage central étonnant, ce Glapieux, puisque on dirait que c'est à la fois Gavroche et Jean Valjean. Non ?
Absolument,
c'est
oui.
Les deux, hein.
Je crois que Hugo est hanté par ce qu'il a été d'ailleurs, proscrit, quelqu'un poursuivi par la police. Et ce personnage a. Ça fait du bien quand même de voir des personnages comme ça, à la bonté dans l'âme. Oui. Et je me disais, puisque je suis au jury du Centre National du Théâtre pour lire des pièces, je me disais, c'est agréable de lire un grand personnage bon. On ne lit plus dans des pièces des personnages bons.
Mais ce qu'il y a de provocant dans cette pièce quand même, c'est que le héros qui incarne la justice et qui va la rendre, c'est justement ce malfrat, qui est un
tout
malfrat sans illusion.
Ça,
simplement à qui on n'a pas donné une deuxième chance. Il a fait des picadilles et puis il n'a pas eu une deuxième chance.
Tout à fait, En plus, il a fait vraiment une toute petite picadille de rien du tout, puisqu'il y avait un tiroir ouvert et que chez une fruitière et qu'il a piqué quelques petits sous comme ça. Mais en même temps, il y a toujours chez Hugo cette idée qu'on condamne les pauvres. Quoi qu'il fasse, on condamne les pauvres et que c'est une espèce de chute vertigineuse. C'est drôle, ça m'a fait penser à Genet. Vous savez, où Genet... On l'avait accusé d'être voleur alors qu'il n'était pas voleur et ça avait déterminé toute sa vie.
Tant mieux en un sens.
Exactement, ça donne des grands poètes.
Alors, lorsque l'on regarde le théâtre d'Hugo, on est frappé de voir qu'il y a donc cette dichotomie pièces en vers et pièces qui sont des pièces en prose. Est-ce que vous faites partie, vous, des personnes qui pensent que finalement c'était bien pour Hugo de s'attaquer à des pièces en vers parce qu'il était obligé de se contraindre, obligé d'adopter une attitude de rigueur qui finalement donnait de bons résultats? Parce que les pièces que vous avez citées, là, toutes celles que vous avez citées sont des pièces en vers.
Oui.
Il y a Hernani aussi, il y a Marion Delorme, il y a le roi Samus,
oui, aussi Montemarion,
les Burgraves. Alors que Lucrèce Borgia, Marie Tudor et Angelo sont des pièces en prose.
Moi, je trouve qu'il est toujours grand, quoi qu'il fasse. Il est toujours grand. Ce qu'il y a quand même d'intéressant, parce que j'ai eu cette chance de monter Hernani, qui est quand même sa pièce de révolutionnaire au niveau du style, qui a marqué quand même... C'est qu'il a quand même inventé un nouveau vers. Un vers en rupture. Et que ça. C'est très intéressant d'ailleurs de lire toutes les archives de la Comédie française des soirées. Ça a été d'une provocation parce que c'était d'une provocation de style. Et d'ailleurs, l'actrice que j'avais voulait absolument pas respecter l'enjambement. Ça me mettait en colère, l'escalier dérobé. Il faut pas enchaîner, l'escalier dérobé. Fin du vers, c'est ce qui. D'ailleurs, il annonce Claudel. Curieusement, il annonce déjà les versets de Claudel, libres. Et d'autre part, ça a été scandaleux parce que c'était révolutionnaire aussi, puisqu'on voyait le roi qui se déguisait, c'est-à-dire qu'il n'était pas à la hauteur de la royauté. qui était un être comme tout le monde.
Alors, vous évoquez donc Hernani et le fait que vous l'ayez monté. C'était dans la cour de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'était en 2002, donc pour le bicentenaire de la naissance de
Avec François
Hugo.
Beaulieu qui faisait Don Gomez.
Alors, c'est une pièce extraordinaire, des duos d'amour entre Doniassol et Hernani. Alors, il y a les tirades aussi. Il y a cette tirade formidable de Don Carlos, la méditation. Mais alors, il y a autre chose. On peut dire que l'auteur de votre vie, je dirais que vous avez trompé Hugo avec Racine. On peut le dire.
J'ai trompé Claudel,
J'ai
trompé Hugo avec
Mais alors, ce qui est étonnant, je relisais donc pour cette émission Hernani. Mais quand on prend certaines tirades d'Hernani, que ce soit Hernani lui-même ou Doniassol, c'est Oreste.
Absolument.
Parce que Oreste, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Hernani, tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent. Enfin, vous la connaissez par cœur.
Oui, mais dites-le, c'est tellement beau que.
Un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi, je suis une force qui va, agent aveugle et sourd de mystères funèbres, une âme de malheur faite avec des ténèbres. Où vais-je, je ne sais, mais je me sens poussé d'un souffle impétueux, d'un destin insensé. C'est du Oreste. Et Doniassol qui dit « Êtes-vous mon démon ou mon ange ? Je ne sais, mais je suis votre esclave. Écoutez, allez où vous voudrez, j'irai. Restez, partez, je suis à vous. Pourquoi fais-je ainsi ? Je l'ignore. J'ai besoin de vous voir et de vous voir encore et de vous voir toujours. »
C'est drôle, vous êtes le premier qui...
Non,
oui,
vous
si.
Faites ce plaisir.
Si. Non, non, je vous dis franchement. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il faut considérer Hugo comme un très très grand poète. Et pas comme un moindre poète que Racine. Vous savez ce que disait Rimbaud, après Racine, ça sent le moisi, bon, on est tous d'accord. Voilà. Mais si on met comme étalon or Racine, à ce moment-là, on voit qu'ils tiennent le coup derrière quand même. Bon, l'autre, c'est la pureté de la langue janséniste. Mais c'est très juste ce que vous dites. C'est... Pourquoi ? C'est parce que c'est la liberté du poète intérieur qui s'exprime. Donc, d'un immense poète. Par exemple, l'autre jour, j'étais au Rhinocéros de Ionesco. Ils ont fait une introduction nouvelle à la pièce.
La mise en scène d'Emmanuel
de Marcimota.
Remarquable, d'ailleurs.
Remarquable.
Voilà. Théâtre de la Ville.
Au Théâtre de la Ville, oui, tout à fait remarquable. Et au début, il y a des extraits du Solitaire. Et on entend exactement la même solitude, cette force qui va.
Et très très grand texte, le Solitaire.
Oui, très très grand texte.
Qui prend aux tripes, hein.
Absolument, oui.
Alors, il y a cette dimension donc, dans le théâtre d'Hugo, mais il y en a aussi une autre, c'est cette capacité à décrire des époques, parce que la Révolution d'Angleterre, Cromwell, la France sous Richelieu, Marion Delorme, l'Espagne de Charles Quint, Hernani, un peu plus tard avec Ruy Blas, et en revenant en arrière, le Moyen-Âge germanique, les Burgraves, il a cette capacité à faire revivre un temps. Vous l'avez ressenti, vous, en tant que metteur en scène?
Oui. C'est pour ça que je me sens un petit peu à l'étroit, si vous voulez, avec 1000 francs de récompense. Parce que... Il faut le redire quand même, je suis ébloui. On devrait être à genoux devant ces gens-là, à genoux. Déjà par la somme de travail. Je me pose toujours la question, j'ai relu cet été Guerre et Paix, mais vraiment ligne après ligne de Tolstoï. Mais comment il faisait pour écrire autant ? Une documentation, une connaissance. Et Hugo, moi je rêve toujours de monter Cromwell, qui n'est jamais monté.
Il y a combien d'années que Cromwell n'a pas été monté ? Parce que ça date de 1827.
J'espérais le monter à la Comédie Française, je ne sais pas, ça fait très très longtemps en tout cas.
Très longtemps. Oui, et vous disiez donc la somme de travail chez Hugo. C'est...
Mais Hugo, ça brasse, on prend les 16 volumes. Mm-hmm. J'ai eu cette chance que j'ai très très bien connu Jean Massin. Et comment j'ai connu Hugo, c'est très curieux parce que vous dites, vous êtes pris aussi par les époques. La première fois que j'ai monté Victor Hugo, c'était inconnu, c'était la même colère qu'aujourd'hui justement, en disant mais... C'est quand même insensé qu'on ne parle plus assez de Victor Hugo. Donc c'était en 70, les années 70. Je trouve que c'est très bien de monter des pièces contemporaines. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre contemporain et classique. Il faut monter du théâtre, du grand théâtre,
talent,
c'est tout. Et donc j'ai cherché partout, c'était tout fait une construction. Et pour vous dire à quel point c'était étrange, c'est qu'on était... le premier spectacle a eu lieu en 68, en fait, à Lons-le-Saunier. Et on était en pleine révolution, si je puis dire. Or, mon spectacle a failli être interdit parce que c'était les barricades. J'avais fait ça sur des pavés sans tout penser que 68 allait arriver. Et la police est venue pour interdire. Donc, pour vous dire que Hugo brasse comme ça des textes qui peuvent être tout à fait terribles, puisque c'est toujours la liberté, c'est toujours une conscience terrible, ce qui est aussi dans 1000 francs de récompense, du pourrissement de la conscience.
Et de la société, oui.
Qui se résume en un mot chez Hugo. Dans Napoléon le Petit, vous pourrez toujours faire voter au suffrage universel que 2 et 2 font 5, 2 et 2 font 4.
Alors vous disiez à l'instant que pour vous, le chef-d'œuvre d'Hugo, c'était Hernani. C'est plus Hernani que Ruy Blas ?
Oui, pour moi, je trouve qu'Hernani... Hernani est porteur. D'abord, il l'écrit, il est hanté par son père condamné à mort. Parce que c'est ce qu'on oublie. J'avais un acteur formidable, Clément Hervieux-Léger, qui le jouait. Et beaucoup de gens m'ont dit « Mais Hernani, c'est un homme des bois. » Vous savez, on lit mal les pièces. Hernani, c'est un fils de duc tout à fait et très raffiné et qui n'est pas du tout un espèce de brigand. Et je trouve que cette pièce défend une grande culture, une grande dignité de l'homme.
Oui, alors que Ruy Blas, c'est le peuple génial qui défie...
Oui, et puis je trouve que...
Une aristocratie un peu abâtardie, quoi. C'est un peu ça, hein, Ruy Blas.
Oui, oui, voilà. Je dirais que c'est peut-être plus limité historiquement, Ruy Blas, quand on le monte, que Hernani qui peut être monté. Cette pièce qu'il a écrite très jeune, qui est aussi une réflexion sur la vieillesse, puisque Don Gomez comprend que Donia Sol ne l'aimera jamais parce qu'il est trop vieux. C'est magnifique. C'est...
Mais si le public aime tant ces pièces, est-ce que c'est parce que c'est d'abord et avant tout un hymne à la vie dans toute sa complexité, Hugo ?
Tout à fait. Moi, je crois... Écoutez, l'autre jour, j'ai joué l'Aiglon. On aurait une longue discussion sur Rostand et sur Hugo. On ne va pas les mettre au même niveau.
On va en parler. Quoique... On va en parler de ça.
Bon, les niveaux...
Oui, à ce point de Mais... talent, on peut...
Oui, oui. C'est que des gens du public m'ont dit « ça nous donne envie de vivre ». Ça nous donne envie de redresser la tête. Et c'est ce que j'aime chez Hugo, c'est que même notre héros, là, dans « Mille francs de récompense », il ne se plaint pas, il fuit la police, mais en même temps, toute sa dignité d'homme est préservée.
Et en même temps, avec un auteur qui s'immerge totalement dans la vie du personnage.
Tout à fait,
c'est étonnant,
complètement.
Hein. Je retrouvais en préparant cette émission le texte des Contemplations, quand il parle de l'auteur en disant « il tremble en eux, il vit en eux, il meurt en eux ».
Mais c'est ça dont manque le théâtre, c'est... cette parcelle d'humanité qui fait que le public sort en disant « Ah ben oui, il y a une porte de sortie, quoi. Je peux me sortir ».
Et on est un peu plus humain à la sortie. Quoi.
Je trouve quelque part la direction d'acteurs trop caricaturale aujourd'hui. On est un peu, voilà.
Vous voulez dire ?
Ben, je trouve qu'on dirige trop les acteurs. Même Ionesco, le rhinocéros, je trouve que par exemple au bureau, ils sont tous déjà des rhinocéros.
Oui, oui.
Et je me rappelais la mise en scène de Barreau et je me disais... J'étais ému parce qu'au départ, ils n'étaient pas des rhinocéros, tous ces gens.
C'est vrai que là, dans cette mise en scène-là, on est déjà dans le régime totalitaire. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ce sont déjà des bêtes.
Or, je pense profondément que le rôle du théâtre est de montrer que, précisément, on peut tous entrer en résistance parce qu'on est humain. Il y a toujours un fond d'humanité.
Alors, il y a donc le Hugo auteur de pièces de théâtre, et puis il y a le Hugo théoricien du théâtre et de la langue française, donc à travers... la préface de la pièce de Cromwell, jouée en 1827, à travers la bataille d'Hernani, on l'évoquait, 1830, et à travers la réponse à un acte d'accusation publié en 1854 dans les Contemplations. Alors certains disent, au fond, Hugo, sur le plan du théâtre, est plus intéressant en tant que théoricien qu'en tant qu'auteur. Je suppose que ça doit vous faire monter au plafond, ça.
Oui, oui, parce que je crois que c'est une façon jolie de ne pas être écrasé par le génie.
C'est-à-dire ?
Ben, je crois que pour certaines personnes... de dire oui, ah oui, mais finalement, quand il écrit
il fait de l'ombre,
le théâtre, c'est mieux que quand il écrit du théâtre. C'est une façon d'échapper au génie de Hugo, mais non, non, c'est aussi grand. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'il écrit du très grand théâtre qu'il est aussi un très grand théoricien de théâtre.
Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette préface de Cromwell ? Donc, au point de départ, hein, il part de la conception chrétienne de l'homme, l'homme partagé à la fois vers le haut et vers le bas. Et il dit le rôle de théâtre, c'est de montrer toute la vie, la part de tragédie, la part de comédie, la part de burlesque, la part de grandiose. Et il a cette phrase, « Le drame tient de la tragédie par la peinture des passions » et de la comédie par la peinture des caractères. Ça, c'est pas dans Cromwell, c'est dans Ruy Blas. Mais est-ce que vous pensez que cette phrase-là peut permettre de comprendre le théâtre d'Hugo ?
Oui et non, parce qu'il y manque Dieu.
Il manque Dieu, oui, mais ça, c'est le poète qui l'ajoute, ça.
Oui, c'est d'ailleurs très curieux que le poète ait Dieu et que l'homme de théâtre... Enfin, moi, je sais pourquoi il l'enlève.
Pour quelle raison ?
Parce que le théâtre est Dieu, donc il n'a pas besoin de le mettre.
Vous voulez dire ?
Ben, c'est-à-dire que les acteurs incarnant les personnages sont face à face avec un dieu qui s'appelle le théâtre, qui n'est pas le dieu racinien, mais qui est l'œil du théâtre.
Et en même temps, l'œil du mystère.
Voilà, exactement.
Ah, c'est ça. Alors, il y a dans ce Hugo théoricien du théâtre, il a une remise en cause agressive. On a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, mais ce que ça pouvait représenter à l'époque, ça, quand même, c'était quelque chose de considérable. Remise en cause agressive des règles classiques des unités, l'unité de lieu, l'unité de temps. Quand il partait en guerre au nom de la vraisemblance contre ce qu'il appelait la tyrannie du vestibule et la tyrannie des 24 heures. Est-ce qu'il exagérait ou pas ?
Non, il y a eu, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, on subit ça de nouveau à cause peut-être de la télévision. Il y avait, Enfin, ça, je pense que ça a été toutes les époques. Moi, je suis très surprise. Il y a la tyrannie des... Il y a les poètes de théâtre.
Qui sont libres.
Eschyle, Sophocle, Shakespeare, Racine, qui sont libres. C'est-à-dire, Racine ne va pas écrire Bérénice s'assied sur un canapé rose, qui a des volants, etc. Oui, non, je plaisante, mais c'est ça le problème. Et à l'inverse, on est en face de pièces qui sont intéressantes, mais qui sont stéréotypées dans l'époque et qui étouffent.
C'est ça.
Je ne peux même pas parler de mise en scène à l'époque, mais c'est-à-dire qu'ils vont... Je me suis fait cette réflexion-là quand j'ai monté une opérette où j'avais fait scandale parce qu'on me disait « mais là, il y a telle blague », etc. Je ne comprenais pas du tout ce qu'on voulait dire. C'est qu'en fait, c'est des œuvres qui sont répertoriées dans le siècle où elles vivent. Et au lieu d'échapper, comme par exemple vous montez Le Roi Lear, Shakespeare, il écrit dans La Tempête,
quoi, oui,
puis que tu sois au 18e, au 19e siècle, le metteur en scène se débrouille. Et je trouve que Hugo devait être écrasé par le carton-papier, quoi, le carton-pâte du théâtre. Quoi. Il n'en pouvait plus. Comme Sarah Bernhardt, d'ailleurs. Qui...
Ce qu'on allait retrouver avec Feydeau, avec voilà. Courteline et tout ça. Quoi.
Voilà. Encore que Feydeau, il en fait quelque chose.
Oui.
D'ailleurs, je comprends pourquoi Laurent Pellier a choisi 1000 francs de récompense, parce que il y a une tonne d'accessoires là-dedans, de 1000 francs. Moi, je hais les accessoires, alors...
Ah bah alors là, vous êtes mal parti.
Voilà.
Vous citiez Shakespeare. Au fond, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle évident entre
mais
Shakespeare et Hugo?
Évidemment. Non, non, mais tout à fait.
Est-ce que ce ne sont pas les deux plus proches? C'est ça, hein?
C'est évident, c'est évident. Si vous voulez, moi, je me suis échappé totalement vers la tragédie. C'est-à-dire vers Racine, c'est-à-dire que la tragédie... enlève tout accessoire. C'est vraiment ça qui m'intéresse de plus en plus.
Oui, le cœur humain.
Mais comme vous dites, on peut faire un parallèle avec le théâtre de Shakespeare qui est le cœur humain, le burlesque, la tragédie, mais toujours, comment dire, elle n'est pas transcendée par un dieu.
Alors vous parliez tout à l'heure de l'aspect social chez Hugo, à côté de l'aspect poète, l'aspect lyrique. Donc Hernani, la bataille d'Hernani, 1830.
Oui, alors moi je dis vraiment au public, aux gens, mais allez, d'abord en plus ça se vend, puisque ça a été édité en 2002, ça a été réédité, mais c'était insensé, le préfet de police était appelé tous les soirs.
Oui,
enfin ça.
Ça
a été, mais une fois sur deux, il ne pouvait plus continuer à jouer.
Alors qu'il
les
avait
acteurs.
27 ans quand même, il n'avait que
27 ans.
Oui, c'est ça.
L'âge de Racine noté pour Andromaque.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ce texte-là et ce qui s'est passé là? Et le fait que 6 mois plus tard, il y a la révolution de juillet quand même.
Non, mais je pense comme tout grand poète. Si, si, si. Comme tout grand poète, il a senti son époque.
Il Parce qu'il disait lui-même, hein, le romantisme menait à tout prendre que le libéralisme en littérature. Donc ça a vraiment une portée...
Ah oui, oui, non, mais ça c'est... Mais d'ailleurs, on sent bien que c'est porteur de cette révolution, Hernani. D'ailleurs, il a repris le cri... espagnol, un peu hiero, la liberté,
oui.
C'était la
d'ailleurs,
jeunesse.
D'ailleurs, l'Espagne, vous avez raison, parce que dans son théâtre, l'Espagne est très présente.
Très présente, toujours très présente. On se demande si c'est à cause de celui qui aurait été son vrai père,
oui,
enfin, tout ça. Et...
Peu importe, le
exactement
génie est là. Le génie est là. Et quand vous parlez de la force des mots, alors ça me donne envie de ressortir ce texte quand même formidable, 1854, la réponse à un acte d'accusation, en fait, publié en 54, mais écrit en 34. Cet amour, y a-t-il eu un autre auteur ayant un tel amour des mots? Quand il écrit « Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, les mots sont les passants mystérieux de l'âme, car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu. » Pour vous
oui.
qui vivez dans les mots, là, vous êtes à la source, non?
Oui, mais il y a Rimbaud, il y a Claudel, il y a Racine. Les mots qui retravaillent tout le temps, les mots. Claudel disait que c'est une charge atomique. Le mot est une charge atomique. Non, mais Hugo, c'est... Enfin, le mot, pour lui, est une boule de feu. C'est un météore qui lui arrive sur la... Enfin, c'est les poètes, ça, c'est... C'est étonnant, quoi. C'est-à-dire que là...
Oui, mais lui, il en avait parfaitement conscience.
Voilà, tout à fait.
Parce que, par exemple, la façon dont il parle, après coup, hein, bien sûr, de la bataille d'Hernani, quand il raconte ça, mais en même temps, c'est très drôle. « Je montais sur la borne Aristote et déclarais les mots égaux, libres, majeurs. » Il ajoute « Et je n'ignorais pas que la main courroucée qui délivre le mot délivre la pensée. » Il continue, j'ai dit au mot « Soyez république, croyez, aimez, vivez ». C'est quand même fabuleux, quoi.
On a avant le verbe « s'est fait cher ».
Ben voilà, c'est ça, c'est ça, oui, mais il le dit avec la même intensité.
Moi, grâce à eux, je peux dire grâce à eux, il n'y a que les mots qui m'intéressent. Et je souffre aujourd'hui que les mots soient des enveloppes trop souvent vides.
Vous avez
donc
cette impression-là?
Ah oui.
Dans le théâtre contemporain?
Pas toujours, mais beaucoup. On parle plus de la fable.
Oui. Ah oui, on a besoin d'une justification politico-sociale.
Oui, voilà, que du mot, quoi.
Oui. Oui. C'est pour ça que ça fait du bien de retrouver Ionesco. Par moment, le roi se meurt.
Oui, et puis, par exemple, Racine, vous n'avez pas besoin d'enchaîner les alexandrins, vous en prenez qu'un, et il tient tout seul.
Oui, même avec une poésie, Ariane, ma sœur, lequel amour blessé.
Blessé, et puis ça tient. Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux, vous pouvez en faire votre moi. Là. C'est... Hugo, c'est pareil.
Alors, il y a des gens qui disent que, bon, le théâtre d'Hugo, c'est bien, mais que finalement, ce n'est pas au niveau de ses romans ni de sa poésie. Quand on dit ça, quelle est votre réaction à vous ?
Je dirais d'abord, ça me fait un petit peu sourire parce que vous entendez la phrase « ses romans et ses poésies ». Comme si c'était la même chose, les romans et les poésies, déjà.
Oui, mais l'idée de mettre une hiérarchie, quoi.
Oui, oui, et puis...
La poésie, deux, les romans,
trois,
les romans
et les poésies
théâtre.
Sont ensemble, curieusement, contre le théâtre. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est un génie, c'est tout. C'est comme si on disait que la Chapelle Sixtine est quand même mieux que la Pietà.
Oui. Dans les romans d'Hugo, auquel êtes-vous le plus sensible ? Est-ce que c'est l'un des grands grands ou est-ce que c'est des romans
93, dont on parle, j'aime 93. Beaucoup. 93, oui, j'aime
et l'homme qui rit, les travailleurs de la mer, des choses comme ça.
C'est fabuleux. Ouais. Mais bon, quand je vais dans les lycées, je dis, mais ouvrez une page d'Hugo n'importe où. Et au public aussi, reprenez l'œuvre d'Hugo, achetez-la et ouvrez, tombez sur un poème. Parce que ce qui est étrange chez les génies, je trouve, c'est qu'ils sont compréhensibles. Facilement compréhensible.
Et vous trouvez ça étrange ? Est-ce que ce n'est pas la caractéristique même ?
Bah oui.
La condition déjà.
Oui, pas étrange.
Les génies abscons.
Mystérieux.
Les génies abscons. On laisse ça au structuralisme. Mais en ce qui concerne sa poésie, donc vous évoquiez tout à l'heure les jugements qui étaient portés sur elle. Il y a ce mot terrible qui peut-être a fait beaucoup de mal, bien qu'il en sera mort avant la mémoire d'Hugo. C'est le mot de Gide. Quel est le plus grand poète ? Hugo, hélas. Pourquoi le hélas d'ailleurs ?
Il en a dit d'autres sur Claudel, d'ailleurs.
Oui. Mais non, comment vous interprétez ce hélas parce que...
J'entends des grands intellectuels dire la même chose aujourd'hui. Je pense que certains cerveaux ont l'impression d'une ronronnette, quand même, de quelque chose. Ils n'arrivent pas derrière le souffle. Ils sont asphyxiés par le souffle et ils ont l'impression que c'est quelquefois des vers un peu de pacotille. Voilà.
Oui, ils ne perçoivent pas le sens derrière le souffle.
Voilà.
Le souffle écrase.
Voilà, je dirais que... Alors, pas dans les poèmes. Souvent, d'ailleurs, ils défendent beaucoup les poèmes. Mais je ne citerai pas, mais j'ai souvent des grands amis intellectuels qui disent « Mais non, oui, mais le théâtre d'Hugo, c'est quand même, l'enflure, quoi. Oui. » Et puis, tout d'un coup, ils vous citent quelques vers de Satan. Ça, c'est quand même... Enfin, c'est insensé, mais ça vaut le coup. Donc il y a un petit peu
l'ambiguïté,
cette méfiance comme ça.
Mais en ce qui concerne sa poésie, en fait, pour lui, c'était presque moins un art qu'un moyen de connaissance, non ? C'était peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette poésie.
C'était une psychanalyse.
C'est ça, hein ?
Oui, cette espèce de...
Peut-être ce qui permettait d'être le plus proche du cœur de la vie, quoi.
Du cœur de, oui.
Et c'est... du mystère du monde.
Puis je pense aussi, c'était d'écrire, de travailler. Parce qu'il le dit, à la fin de sa vie, il dit « j'ai pas assez travaillé ». Ça revient toujours, ça revient. Ça revient chez Rimbaud.
Qu'est-ce
aussi, quand Rimbaud est en train de mourir et sa sœur lui dit « c'est beau ce que tu écris, pourquoi tu n'as pas continué à écrire ?» Et il dit « je serais devenu fou ». Moi, ça me fait penser un peu à Mozart qui dit « il y a trop de notes dans ma tête ». Et Hugo, c'est « j'ai encore... » Donc il faut que je délivre, il faut que je délivre.
Mais là, on peut presque parler de démarche religieuse dans sa poésie.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une recherche de l'œil. Ça, c'est une recherche du Dieu caché.
Du...
Moi, vous savez pourquoi j'ai aimé Hugo ? C'est au départ à cause de mon père. Parce que des choses vous restent comme ça. C'est parce qu'il nous récitait toujours à l'époque. Les adultes savaient tant de poèmes par cœur, même s'ils n'avaient pas fait. Mon père n'était pas quelqu'un qui avait passé son baccalauréat ni rien, mais il savait par cœur les poèmes d'Hugo. Et il citait toujours le Cid Campeador.
Oui.
Et à chaque fois, il pleurait à la fin. Donc,
c'est vrai,
moi,
à chaque fois.
Vous savez, le Cid, tous les rois arabes qui viennent revoir le Cid, où est le Cid, et qui arrivent chez le Cid. Et il y a un palefrenier qui est avec les chevaux, qui est en train d'étriller un cheval. Le grand roi arabe dit « je viens voir le Cid ». Ça dure plusieurs pages. Et le palefrenier se retourne, il dit « je suis le Cid ». Et là, le roi arabe lui dit « mais comment ?» Enfin, c'est beaucoup mieux dit chez Hugo. « Comment vous, que j'ai vu le Cid Campeador, vous qui nous avez tous vaincus, etc. Comment je vous vois là, une étrille à la main ?» dans la boue, etc. Et moi, je vais pleurer aussi, puisque forcément... Ça... Et là, le Cid Campeador dit « Oui, mais aujourd'hui, je suis chez mon père. »
Et là, la famille pleure.
En tout cas, mon père et moi, ça, c'est sûr.
Alors, Hugo a été un homme, vous l'avez évoqué également, un homme engagé, hein, politiquement et oui. socialement. Sur ce plan-là, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau à travers sa démarche ? Parce qu'on insiste énormément là-dessus aujourd'hui, Hugo, Guernsey, tout le reste... Est-ce qu'il a apporté vraiment quelque chose de nouveau sur ce plan-là ?
Ah oui, sûrement. Oui. On insiste et on n'insiste pas parce qu'on ne se rend pas compte. Là, justement, je retrouvais quand il a fui dans la nuit. Enfin, c'était... Quel est le grand écrivain, l'immense poète qui pourrait aujourd'hui avoir une parole telle qu'on l'exile et qu'en même temps, il donne à son pays une grande pensée ? Oui. Révolutionnaire.
Il y a eu Solzhenitsyn.
Voilà, oui, tout à fait.
Ça, oui.
Je parle de la France, moi.
Oui, c'est ça, oui.
Et en même temps, quand il est revenu, c'est-à-dire qu'il a donné aussi au peuple qu'il connaissait, en plus, l'idée d'être fier, non pas seulement de la France, mais d'être fier d'eux-mêmes, de ne pas subir le joug. Je pense qu'il a vraiment été le symbole de lutter contre un despotisme.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en ce sens-là, donc ses funérailles, son enterrement en 1885, c'est un peu le couronnement de quelque chose.
Ah oui, et la fin d'une époque, moi je pense, oui, tout
journée,
à fait.
La journée, ça a été quelque chose de prodigieux, cette journée.
Tout à fait, oui, oui. Mais vous savez, je...
Vous avez un texte sous les yeux, là.
Non, je ne l'ai pas. Je reprenais les... Parce que je défends beaucoup Sarah Bernhardt, parce que je trouve qu'on en dit tout et n'importe quoi. On dit toujours les anecdotes bêtes et pas du tout l'immense actrice que c'était. Et on oublie que quand Hugo a été exilé, elle jouait à l'Odéon, et c'est ça qui a fait d'ailleurs sa carrière dès le départ. C'est qu'il y avait des gens qui rigolaient un petit peu sur Hugo. Elle s'est avancée sur l'avant de l'Odéon et elle a dit, en gros, seul nous avons un très grand poète et un homme courageux qui est en exil. Et tous les étudiants se sont levés, lui ont fait une ovation. Et c'est pour ça que quand Hugo est revenu, la seule qu'il voulait pour Donia Sol, c'était Sarah Bernhardt.
C'est Sarah Bernhardt. Mais on peut dire sans se tromper non, que c'est l'écrivain le plus populaire de notre histoire, mais au sens
Absolument.
Noble du terme.
Ah, si vous disiez si j'avais un texte. Oui,
oui, oui, oui, vous êtes entouré, là, comme toujours.
Bah oui, parce que.
Le
c'est
bonheur
mieux.
Des livres. Le bonheur
oui,
des
le
livres.
Bonheur des livres. C'est un texte qui est à l'Assemblée. Parce que quand il parlait, il parlait. Hein. C'était pas. Je prends un au hasard. Hein. C'est la conduite de la. Il est vrai que ces pavés étaient les pavés de Paris, Pierre, qui se changent en hommes. Telle est la puissance du droit que pendant 4 jours, ces 120 hommes, n'ayant pour eux que la bonté de leur cause, firent contrepoids une armée de 100 000 soldats. Un moment même, la balance pencha de leur côté. Grâce à eux, grâce à leur résistance, secondée par l'indignation des cœurs honnêtes, il vint une heure où la victoire de la loi semble possible et même certaine. Le jeudi 4, le coup d'État chancela et fut obligé de s'appuyer sur l'assassinat. On l'a vu sans la tuerie des boulevards, s'il n'avait pas sauvé son parjure par un massacre, s'il n'avait pas réfugié son crime dans un autre crime, Louis Bonaparte était perdu. Il a toujours cette envolée...
C'est l'épopée, quoi.
Cette épopée oui, qui, oui. Je trouve, il y avait ça aussi. Parce que c'est bien de réentendre Hugo. Ça, je trouve ça formidable. Ayons foi, affirmons l'ironie de soi-même et le commencement de la bassesse. C'est en affirmant qu'on devient bon, c'est en affirmant qu'on devient grand. Oui, l'affranchissement des intelligences et par suite l'affranchissement des peuples, c'était là la tâche sublime que le XIXe siècle accomplissait en collaboration avec la France, car le double travail providentiel du temps et des hommes, de la maturation et de l'action, se confondait dans l'œuvre commune et la grande époque avait pour foyer la grande nation. C'est toujours ayons foi en l'avenir, ayons foi, ne penchons pas. C'est ça, moi, que j'aime aussi chez lui.
Mais en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un tel souffle
voilà.
qu'on finit par perdre,
oui,
perdre
mais en même temps,
la rivière.
Oh, mais je pense que quelqu'un se mettrait à ce qui était un peu malheureux aussi.
Oui,
qui
oui,
était
oui, oui, tout à fait. Et d'où vient, si lourde, si lointaine, mémoire, la plainte.
Moi, je suis pour le souffle.
Hein,
je suis pour le souffle,
Jean
je
Moulin,
pense.
Oui. Ah, ça, c'est le souffle. Oui. Mais chez Malraux, quand même, par moments, on a l'impression que ça tournait... Hein, franchement.
Oui, bah, le souffle amène
les
le souffle.
Silence, les voix du silence, oui, le souffle entretenait le souffle.
Mais on a tellement peu de souffle aujourd'hui.
Question délicate, question oui. délicate.
Essayons
Vous avez
d'en
donc
donner.
Monté votre premier spectacle en l'intitulant Victor Hugo, cet inconnu. En 40 ans, qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel le concernant par rapport à ce que vous saviez en 70 ? Qu'est-ce que vous avez découvert de lui et que vous ne saviez pas à l'époque ?
Ah, c'est une question difficile. Ben, à l'époque... J'étais plutôt amoureuse de la barbe, comme ça.
Mmh.
Aujourd'hui, je suis amoureuse de l'écriture. Je voyais plutôt le bonhomme, quoi, le Jean Valjean, le bonhomme, etc. Oui. Aujourd'hui, je suis même pas amoureuse, je suis à genoux devant l'œuvre. D'abord, je ne l'aurais jamais lu entièrement. Je ne comprends pas comment on peut écrire une telle œuvre. Et en même temps, être exilé, être un grand amant. Oui. Vous savez, il y a une très belle chose. Quand il est revenu, je vous raconte ça parce qu'il faut aussi parler de l'homme. Mm-hmm. Donc, il était déjà âgé. Et on dit à Sarah Bernard, pour la première lecture d'Hernani, pour Huy Blas, pardon. Hugo veut que ce soit chez lui. Et Sarah Bernard, elle le dit elle-même, qui était la star, la jeune star à l'Odéon. Dit « c'est hors de question ». Toujours les bons amis disent « tu vas pas te déranger, on va pas se déranger pour lui, c'est toi la star, il doit venir à toi », etc. Et donc finalement, le vieil Hugo vient et ils font la lecture et Sarah Bernard était assise sur une table et elle balançait ses jambes. Et Hugo, de temps en temps, disait « une reine d'Espagne ne balance pas ses jambes, une reine d'Espagne n'est pas assise sur table ». Et petit à petit, elle a compris qu'elle était en face de quelqu'un. Que c'est elle qui était stupide.
Oui, de faire ça. Oui.
Et à la fin de la répétition, il lui a dit « Je serais très honoré si vous veniez demain matin me voir chez moi. » Donc Sarah Bernard est partie. Elle a bien senti qu'elle s'était conduite d'une manière abominable. Et elle est arrivée chez lui et il mangeait un bout de fromage avec un verre de vin rouge. Alors qu'elle était un peu horrifiée. Et au bout d'un quart d'heure, elle dit « J'étais à ses genoux parce qu'il m'avait rendue intelligente. » Si vous me demandez ce que Hugo m'a apporté.
C'est déjà énorme. Et aujourd'hui, les grandes interrogations qui restent en suspens pour vous concernant Hugo?
Alors, il y a quelque chose qui me trouble, auquel je ne m'étais pas arrêtée, mais je compte sur la fin de ma vie pour mes... Oui, parce que ma seconde rencontre avec Hugo était une rencontre extraordinaire qui était avec, vous allez m'aider, quelqu'un qui écrit sur Claudel, qui est mort depuis très longtemps, qui faisait des conférences, qui était un être, qui écrit Le Converti, Paul Claudel... Il était venu dans un village où j'étais faire une conférence sur Hugo et les tables tournantes. Ça m'avait hanté, parce qu'il a quand même approché le mystère, à un moment Hugo, après la mort de sa fille, de sa petite fille.
Pauline, oui.
Et là, j'ai retrouvé quelque chose qui effectivement m'avait... Il ne croyait pas à la résurrection, au Christ Dieu. Donc j'ai envie de creuser ça, son rapport avec le Christ.
Voilà. Nous vous suivrons dans vos recherches. Alors, il y a une chose étonnante, puisque nous sommes ici dans les locaux de l'Institut de France, qui abrite également l'Académie française. Les quatre dramaturges que vous avez le plus montés ont tous appartenu à l'Académie française.
Ah
en dehors
bon
de Schiller, bien
en
sûr.
En dehors de Schiller.
Le cinquième. Parce que Hugo, Schiller, Racine, Rostand, Claudel.
Oui.
Alors, j'aimerais vous demander...
Schiller
vous...
a été déclaré par la Révolution française, citoyen du monde. Alors.
On a pas mal parlé de Racine. Avant que nous commencions cette émission, vous me rappeliez à quel point ce que vous aviez fait aux États-Unis au sujet de Racine avait eu un écho étonnant. Et vous pensez que dans notre histoire, c'est l'écrivain qui a le mieux manié la langue française, Racine ?
Oui, ce que je vous disais, je rejoins Rimbaud, là. Et pour l'avoir joué aussi, avoir joué les autres aussi, c'est très étrange. Il n'y a rien dans Racine. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est quand même bête, j'aurais pu écrire ça.
Aïe, aïe, aïe. Non, moi, je ne me suis jamais dit ça. Non.
J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Vous pouvez très bien, à la fin d'une lettre, écrire ça. Non ?
Oui.
Bon. C'est d'une telle simplicité. Et quand on le dit, tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. Andromaque, et quelquefois aussi parle-lui de sa mère.
Oui, oui.
C'est quelque chose qui est étrange. Et tout d'un coup, ça vous prend. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est comme une commotion. Et alors, tous les acteurs avec qui j'en ai parlé, qui jouent vraiment Racine, hein, pas ceux qui s'amusent autour de Racine, on se disait, c'est curieux, c'est le seul poète où on a des trous noirs, on a des absences de mémoire chez Rostand, chez Claudel. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si vous êtes... Moi, j'ai joué Phèdre, je ne sais pas combien de fois, je l'ai mis en scène. Bon. Tout d'un coup, je suis en train de dire la déclaration d'amour. Je ne sais pas, ce que j'ai joué, je ne sais pas. Et tout d'un coup... C'est pas une absence de mémoire, c'est comme une commotion totale, comme quand on tombe amoureux d'un seul coup. On est
en pleine représentation.
En pleine représentation. C'est-à-dire, on perd totalement connaissance. Ce que disait Claudel, il faut perdre connaissance. Et je ne suis pas la seule qui dit ça. C'est-à-dire, je pense que c'est une langue de l'inconscient tel que c'est insensé.
Ouais, de la vérité,
et avec rien.
Quoi, de l'être. Quoi.
En plus, politiquement, ça dit des choses.
Alors là, on évoquait Racine, on évoquait Hugo, donc deux auteurs fétiches pour vous. Rostand, on en a parlé. Alors, vous avez créé, vous, le rôle-titre de l'Aiglon.
Oui, enfin, c'est Sarah qui l'a créé.
Oui, mais enfin, je veux dire, recréé en 90, oui. Hein, c'est oui. Ça. Hein.
89. Et là, je viens de le rejouer. Oui.
Oui, c'est ça, votre affirmation en tant que tragédienne. Est-ce que vous êtes frappé chez Rostand? Parce que quand on prend le personnage de Cyrano, on prend celui de l'Aiglon, la fascination de l'échec, quand même, chez cet homme-là.
Voilà. Oui. Ben merci. Merci, enfin, quelqu'un... C'est pour ça que là, je reprends l'Aiglon à deux pour faire entendre le grand poème intérieur de l'Aiglon. Parce que je l'ai joué avec 25 comédiens. Mais en fait, ça fait un fatras autour qui fait qu'on oublie qui est, en fait, comme Cyrano, un espèce de grand d'interrogation sur son échec. Ce qui était Rostand a toujours su qu'il n'était pas Racine. Et ça a été pour lui l'horreur, quoi.
Ah oui, il n'arrivait pas à être un grand écrivain de la main gauche.
Oui, il le savait.
Ce que Cocteau avait dit à Frédéric Dard, contentez-vous d'être un grand écrivain de la main gauche.
Avant, je ne connaissais pas.
C'est une belle formule.
C'est une belle formule, oui. Et c'est très curieux parce que Cyrano, il échoue complètement. Mm-hmm. Et l'Aiglon, c'est terrifiant, l'Aiglon.
Oui, parce que là, l'Aiglon...
Qui sait s'il est plus important de conquérir le monde ou d'aimer un instant. Soit je serai le reflet blond du héros brun qui s'en allait les battant tous l'un après l'autre. C'est toujours... Ce n'est pas d'un poison grossier de mélodrame que le duc de Reichstadt se meurt, c'est de son âme.
Mais c'est ça. Au fond, le principal obstacle à lui-même, c'est lui-même.
C'est lui-même.
Mais c'est ça.
Ce qu'il y a d'ailleurs dans Racine, tout à fait autrement, dans tous les rôles d'Antiochus, c'est-à-dire oui. Je serai... Il n'y a que deux solutions. Ou vous êtes un grand poète, ce qu'a choisi Racine, ou vous êtes Louis XIV, ou vous êtes Titus, ou vous êtes Antiochus.
Et il n'y a pas donc que le destin, il y a aussi les personnalités. Alors, votre quatrième auteur fétiche, membre de l'Académie française, c'est évidemment Claudel. Alors, je rappelle, hein, parce que certains ne le savent peut-être pas, on peut dire que c'est vous qui avez révélé Camille Claudel au public à travers votre spectacle.
À cause de Claudel,
une femme, créée en 81, puis le livre que vous avez publié ensuite. Mais vous avez aussi largement contribué à faire prendre conscience de l'importance de l'œuvre de Paul Claudel. Hein. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui sont trop jeunes pour ça, 1975 au Théâtre de la Ville, l'Échange, et puis en 2006, votre version de Tête d'or à la Comédie française. Alors, et pourtant, aujourd'hui encore, hein, Claudel traîne une image d'auteur important, certes. Hein, on dit oui, on rend hommage. Et puis derrière, on dit, oh là là, la barbe, c'est lourd, c'est indigeste. Alors, comment, d'abord, expliquez-vous ça? Et est-ce que c'est tout à fait faux? Moi, j'ai le souvenir de votre Tête d'or, où j'ai bien ri. Je vais me dire, j'ai rigolé. Mais comment expliquez-vous? Est-ce que c'est un contresens formidable ou...
Non. Enfin, j'espère que vous n'avez pas ri tout le temps, quand même.
Non, mais c'était... Chez Hugo, il y a ça
oui,
aussi.
Parce que chez Claudel, ça, ce mélange. Hugo. Chez Claudel, il y a du burlesque.
Oui, c'est ça. Il y a du burlesque
alors,
et du tragique.
Pas dans toutes les scènes. Non, alors, moi, Claudel, ça m'énerve. Mais ça m'énerve d'abord parce que j'ai aussi fait les rencontres internationales que Barrault m'avait demandé de le remplacer, où j'ai créé la ville, première version qui n'avait jamais été faite, à Brangues. Qui est une pièce anarchiste terrifiante. Mais Claudel, pour moi, c'est le contraire de l'ennui. Et c'est vrai que quand j'ai monté l'échange, c'était pareil. On m'a dit, oh, mais même au Théâtre de la Ville, c'était quand même la force de Jean Mercure qui m'a dit, Anne, allez-y. Mais autour de lui, dans le théâtre, on disait, oh, là là, on va avoir personne. Bon. Alors, moi, je ne peux pas dire parce que, vous le savez, j'ai entendu Claudel à 12 ans et demi la première fois. Ça m'a donné envie de vivre à tout jamais. J'ai vu Tête d'or, j'avais 12 ans et demi, j'étais jamais là au théâtre. Mais de cette soirée, ça a été pour moi ma force de vie, que je ne perde pas mon âme en une vaine touffe d'herbe. C'est-à-dire que j'ai décidé que je ne perdrais pas mon âme dans cette société. En plus, c'était Cuny. Après, j'ai vu Feuillère dans Le partage de midi. Je trouve que c'est une écriture la plus brûlante, la plus érotique, la plus sensuelle. Mais c'est la même chose pour Racine. C'est pour ça, si on le joue, là, 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 et qu'on joue, on perd. C'est païen, Claudel. C'est païen, c'est le grand chrétien païen. Quelquefois, en riant, je dis, le problème, c'est que, Claudel, plus vous péchez, plus vous êtes sauvé, plus vous êtes dans...
Félix Culpa.
Ah oui, exactement. Racine, quoi que vous fassiez, vous êtes condamné. Mon malheur passe mon espérance. Mais je crois que ce n'est pas monté, c'est parce que ce n'est pas encore monté avec assez de, je dirais un mot, et de sexe. Mais au grand sens
oui,
du
oui,
terme.
Au sens du terme.
Au sens...
Héros et Thanatos.
Voilà. Merci de cette précision, parce que sinon les Claudel vont de nouveau me chasser.
Non, ça m'étonnerait. Il nous reste une minute, simplement un mot. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition du théâtre que donnait Hugo? c'est la vie transfigurée en art.
Oui, l'art, c'est la chose suprême.
Réalité supérieure.
Oui, c'est la réalité supérieure, l'art. Comme Michel-Ange, quoi. C'est...
Et le théâtre, forme supérieure d'art.
Ah ben, plus je vieillis, en tout cas, plus pour moi, le théâtre est la grande énigme de l'humanité.
Vous ne pouvez pas trouver mieux comme expression pour achever cette émission. Donc, vous êtes l'invité, Anne Delbé.
Merci.
Je rappelle, donc, vous êtes quand même l'un des grands noms de la mise en scène théâtrale de ces 40 dernières années. Une émission que nous avons réalisée à l'occasion de la représentation jusqu'au 5 juin au Théâtre National de l'Odéon à Paris, de la pièce de Victor Hugo, 1000 francs de récompense. Et puisque nous évoquons l'Odéon, je recommanderais à tous ceux et à toutes celles qui ont la passion du théâtre, la lecture du discours manifeste qu'avait prononcé en 2007 devant une centaine de permanents et d'artistes, hein, il n'y avait pas plus de gens, Olivier Py, lors de sa prise de fonction en tant justement que directeur de ce prestigieux théâtre. Un texte aussi passionnant que passionné, un peu fou, un peu délirant.
Oui, parce que lui, il aime la tragédie aussi.
Un peu délirant. Mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup de le lire. Vous le trouverez chez Actes Sud. Anne Delbé, merci.
Merci à vous.
Merci. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.